Amen. Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de pouvoir se retrouver ce soir, les soirs de semaine, dans ce lieu pour partager ensemble la parole de Dieu et apprendre qui est Jésus-Christ et à voir où est-ce qu'il veut nous amener dans notre vie. J'aimerais que nous puissions faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et nous allons lire les dix premiers versets. Ou on pourrait juste lire le dernier verset du chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ces textes, cette prière extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. Elle est surprenante pour diverses raisons. Et ce soir, nous allons nous y intéresser pour une en particulière parce que on n'a pas pu toute la lire pour ne pas appesantir ces instants, mais on voit au travers de cette prière que le Seigneur Jésus accorde une importance particulière à la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu et de lui-même. Et tout au long de la prière, nous l'avons lu au début, il y a cette connaissance, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a cette particularité que eux, ils ont connu Dieu, qu'ils ont gardé la parole, et tout au long de plusieurs versets, le verset 7, 8, 23, j'ai noté tous ces versets, il est question de la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé, mais c'est quand même particulier parce que bien souvent, on a pu, à tort d'ailleurs, opposer la connaissance et la foi. Et bien sûr, il y a un verset qui, sorti de ce contexte, va dans ce sens. Un verset que nous pouvons mal comprendre, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, il va dire « mais la connaissance enfle, mais la charité édifie ». Et en partant de cela, on peut à tort opposer la connaissance, et il y a plusieurs sortes de connaissances bien évidemment, opposer cette connaissance et la foi. Lorsque nous parlons de connaissance, nous pouvons rapidement comprendre et évoquer ce que peut être une connaissance pour nous, le savoir, ce que notre expérience nous a donné de pouvoir acquérir, ce qui peut être quantifiable, quelque chose où l'on peut mesurer l'évolution. Et bien sûr, en opposition, bien souvent, il y a la foi, ce qu'on ne peut pas quantifier. C'est difficile de mesurer notre foi, la foi qu'on peut avoir. Et toutes ces choses, ça peut nous amener à plusieurs questions. Et particulièrement ce soir, parce que si pour le Seigneur Jésus-Christ, et c'est ça qui nous intéresse quand même, a jugé bon de parler de cette connaissance et va aller plus loin, puisqu'il va dire que c'est la connaissance de Dieu, ou plutôt, je vais le reformuler, c'est de connaître Dieu, et de connaître Jésus-Christ qui nous pousse et qui nous amène à avoir la vie éternelle. Donc ce soir, ensemble, on pourrait se poser des questions toutes simples, mais comment est-ce que nous connaissons Dieu ? Ou déjà, est-ce que nous le connaissons ? Et quand même, je le répète, ça mérite que nous puissions y prêter attention à ces questions, que nous puissions nous y arrêter quelques instants, parce que la connaissance de Dieu, ça nous amène quand même à la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, d'éphémère qui nous amène à la vie éternelle. Ce n'est pas, et on va le voir tout au long de ces quelques exhortations, ce message, ces textes que j'ai pris, ce n'est pas quelque chose de rapide, quelque chose que l'on peut emmagasiner et tel un étudiant qui va passer l'examen, qui pourra dire « mais ça y est, j'ai réussi mon examen, je peux accéder au niveau supérieur », la foi ne peut être en rien comparée à cela. On ne peut pas dire « ça y est, je connais quelques textes par cœur, ça y est, je connais a priori ce que racontent les évangiles, ce que raconte la parole de Dieu, j'ai atteint assez de connaissances pour arriver à avoir la vie éternelle ». C'est pas ainsi. Et je pense que vous l'aurez compris, mais ce soir, il m'a semblé bon, et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, que nous puissions nous arrêter sur ces réalités, parce que cela nous concerne d'une manière particulière. Vous savez, l'apôtre Paul va s'exprimer sur la manière dont on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un texte qui m'a toujours frappé, et c'est ce qu'il va dire, et je vais le lire pour vous, bien évidemment. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 16, il va pousser cette connaissance. Je pense qu'il va même nous amener dans des retranchements, dans ce que nous pouvons penser. Il va dire ainsi, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Tiens donc, c'est étonnant ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. On parle, et le thème de la prédication, c'est connaître Dieu. On a vu que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il va prier le Père, va dire que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, donc de connaître Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul met une lumière différente, mais qui va nous permettre de savoir où nous en sommes, puisque c'est, je le répète, ce qui nous intéresse ce soir. Ce n'est pas qu'on ressorte de ce lieu en disant « mais j'ai grandi dans une certaine connaissance théologique », mais plutôt « je connais mieux qui est Jésus-Christ, je connais mieux qui est le Dieu le Père ». Parce que c'est cela qui va peut-être faire la différence dans votre vie, et c'est ce qui a fait la différence dans ma vie. Parce que ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, c'est que on peut connaître des choses d'une manière intellectuelle, selon la chair. On peut connaître des personnes où on ne peut pas les connaître selon la chair. Mais il va aller plus loin en nous disant, mais voilà, vous pouvez aussi connaître Jésus-Christ. Vous pouvez connaître Christ selon la chair. Et s'il va continuer sa phrase en disant « mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière », ça sous-entend que dans une période de sa vie, et il est bien placé quand même pour aborder ce sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans une période de sa vie, il avait une connaissance purement intellectuelle de Jésus-Christ. Et ça n'allait pas plus loin. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. On connaît Christ selon la chair. On connaît par rapport à notre éducation, par rapport à notre intelligence, bien évidemment. On l'aura compris. On connaît Christ ou Jésus-Christ parce qu'on s'est intéressé à sa vie, mais pas pour son œuvre, parce que moralement, c'est intéressant. Parce que d'un point de vue de la philosophie, c'est marquant, c'est frappant. Au point de vue de la morale, on a à apprendre. Et on pourrait multiplier les exemples. Au point de vue politique, en regardant comment il a vécu ceci ou cela. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut connaître. Et en ligne de fond, la trame de ce message, c'est que nous puissions toujours nous repérer par rapport à cette déclaration, cette prière, une prière extraordinaire de Jésus-Christ, à savoir, mais est-ce que nous connaissons réellement Jésus-Christ? Est-ce que nous avons accès à la vie éternelle? Est-ce que la connaissance de Jésus-Christ nous a amené à connaître réellement Dieu? Ou on est encore dans le flou? Où on est encore dans un état où notre vie est encore dans quelque chose qui est tellement vague par rapport à Jésus-Christ. En tout cas, si nous sommes là ce soir, c'est pour apprendre mieux à connaître le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. On pourra aller plus loin, un petit peu plus loin, parce que on est resté, et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, sur le domaine intellectuel. Mais la Bible est précise vraiment sur les risques que nous avons de penser de telle et telle manière, sur notre manière d'appréhender les choses, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais aujourd'hui c'est différent. Si je vivais à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr, je me convertirais. C'est sûr. Je l'aurais vu faire des miracles, je l'aurais accompagné, c'est sûr je me serais converti. » Et toujours avec ce thème de la connaissance, on peut aller plus loin. Parce que, vous savez ce que va dire Jean-Baptiste? Là, vous me voyez venir peut-être. Alors qu'il était là, il baptisait les personnes, et il enseignait en même temps. Il va aller plus loin, Jean-Baptiste. Parce que c'est une chose que de dire, que de connaître Jésus-Christ par son intelligence. Mais c'est quelque chose qui peut être encore différent lorsque nous entendons le Seigneur nous dire « Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. » Sous-entendu, Jésus-Christ était à côté d'eux, Jésus-Christ était présent physiquement, mais c'est pas pour autant que les personnes, ceux qui étaient à côté de lui, ont pu le connaître. Comment est-ce que nous lisons la parole? Comment est-ce que nous venons dans ce lieu? Est-ce que ce soir nous sommes venus parce que on a l'habitude de venir le jeudi soir? Est-ce qu'on est venu avec une interrogation, une question, en ayant besoin que Jésus nous parle? Est-ce qu'on est venu parce que on sait que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle et qu'on a conscience qu'on doit apprendre à le connaître? On a conscience qu'on doit pouvoir discerner ce qui est bon, de ce qui est mauvais dans notre vie, pas au travers de notre intelligence, pas au travers de ce que je pense, mais au travers de lui, de Jésus-Christ. Parce que sinon, on peut facilement se faire entendre cette voix, mais dans notre cœur, bien évidemment, mais Jésus-Christ peut être présent, on peut avoir sa parole, et je peux même pousser plus loin. On peut, parce que vous allez voir que c'est le verset que nous allons partager, on peut être converti et s'entendre parler et dire cette phrase, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Parce que si tout au long de notre marche, de notre démarche, nous venons vers Jésus-Christ avec ce que nous sommes, et c'est normal, on ne peut pas venir d'une manière différente. Tel que je suis, je viens à toi Seigneur. Simplement, la réalité, c'est pas tel que moi je la comprends. Tel que je suis, Seigneur, tu peux m'enlever mon péché, tu peux me pardonner. Tel que je suis, Seigneur, oui. Avec mes luttes au-dedans, mes craintes au-dehors, avec mes combats, je viens vers toi pour que tu puisses me montrer ce que moi je dois faire par rapport à ta parole. Et c'est la parole de Dieu qui pourra être efficace dans notre vie. Ce n'est pas ce que telle et telle personne pourra nous dire. Ce n'est pas ce qu'un grand savant pourra nous dire qui pourra être efficace. Mais ce qui pourra être efficace, c'est qu'on a compris, qu'on a tout à gagner à connaître Jésus-Christ et surtout à mettre en application dans notre vie ce qu'il veut nous communiquer, ce qu'il nous dit. On pourra aller encore un peu plus loin dans cette manière dont nous connaissons, dans peut-être les mauvaises pistes, ce que peut-être nous avons fait. J'ai un peu anticipé tout à l'heure, mais regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Il va aller plus loin parce qu'il va dire, il va s'adresser aux chrétiens, Il va leur écrire cette lettre, il va dire, mais voilà, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. On peut venir à l'église, vous savez, sans connaître Dieu. Alors, c'est évident. Si je viens pour la première fois, je ne connais pas Dieu. On peut avoir pris l'habitude de venir à l'église quand quelque chose ne va pas bien dans notre vie. Et ça peut être un bon réflexe. Mais on peut venir pendant des mois, des semaines, des années, sans connaître Dieu. Repartir de ce lieu en ayant peut-être une connaissance intellectuelle, et j'y reviens un petit peu, mais sans que notre cœur puisse être ouvert à notre Dieu, sans qu'il ait eu accès à notre cœur, sans qu'il puisse intervenir dans notre vie. Et on peut multiplier les semaines, les années ainsi, sans que rien ne se passe. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense, et quand je dis je pense, là c'est que j'en suis sûr, c'est que quand même la volonté de Dieu, c'est que nous puissions peut-être abattre ces murailles, être tels que nous sommes devant lui, pas en ayant des masques, pas en ayant un costume qui nous montre d'une telle et telle manière, mais c'est de venir devant le Seigneur tel qu'on est pour qu'il puisse nous transformer, pour que nous puissions apprendre réellement qui il est, ce qu'il a fait, son œuvre. Parce que on peut prendre, bien sûr, et on le dit souvent, vous l'entendez souvent dans les prédications, que on peut vouloir de Christ que pour les bénédictions, on peut vouloir de Dieu que pour être béni, et tout le monde veut être béni. C'est évident, tout le monde veut vivre ce que nous lisons dans les évangiles, ce que quelques-uns ont vécu, des guérisons, des miracles. Tout le monde veut entendre la voix de Dieu, lui parler, mais c'est sûr. Mais qui va ouvrir son cœur pour que Dieu puisse quand même lui révéler des réalités spirituelles? Qui ce soir, par exemple, va sortir de ce lieu en disant « Mais Seigneur, je veux plus porter un masque. Je veux plus venir à l'église sans que rien ne se passe. Je veux plus effleurer cette connaissance que tu veux me donner. Je veux plus partir en ayant une idée de ce que peut être ma vie. » Vous pouvez partir en disant « Mais je sais ce que Dieu veut pour ma vie. Je sais, je connais Jésus-Christ. Je sais ce qu'il a fait pour moi. » Pas « Je sais ce qu'il a fait pour les autres. » Vous pouvez partir de ce lieu en disant « Mais je sais ce que Jésus-Christ a fait pour ma vie. » Alors, vous allez me dire « Mais finalement, comment connaître Jésus ?» Parce que depuis tout à l'heure, on voit les différentes manières, ce qui peut nous leurrer dans notre connaissance. Mais comment trouver le bon chemin? Comment savoir? Et tout simplement, c'est j'ai médité. Alors bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste, mais j'ai essayé de rester dans mon thème et dans mon sujet pour ce soir en tout cas. C'est le mot que Jésus va employer dans sa prière. Parce que en grec, et vous le savez sûrement, il y a plusieurs mots pour parler de la connaissance. Il y a un mot qui est utilisé pour la connaissance intellectuelle, un autre mot qui est utilisé pour la connaissance au niveau des sentiments, de la connaissance par rapport à l'analyse que nous pouvons faire. Et le mot que Jésus-Christ va employer dans cette prière-là, c'est pas ces mots-là, c'est un mot précis. Et c'est ce mot qui va nous expliquer comment faire, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire, entreprendre dans notre vie, pour connaître réellement Dieu. Parce que le mot qu'il va employer, le mot connaissance, c'est un mot qui se rapporte, qui est fondé sur une expérience personnelle. Et là, ça change. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en arriver. Là, ça change parce que il ne s'agit plus de connaître Dieu, et je vais au risque de me répéter un peu, par rapport à notre intelligence, parce qu'on vient à l'église, mais rien ne se passe, par rapport à notre analyse des choses, selon la chair, ceci ou cela. Ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que le chemin de la vie éternelle, donc le chemin pour être sauvé, le chemin pour être pardonné de tous nos péchés, cette connaissance qui pourra faire la différence, c'est lorsque nous allons comprendre que la foi, ça s'expérimente. C'est une expérience. n'est pas quelque chose de virtuel. Jésus-Christ, lorsqu'il emploie ce mot, c'est un mot précis pour dire que vous pouvez connaître Dieu, son amour. Vous pouvez me connaître, Jésus-Christ, vous pouvez connaître Jésus-Christ lorsque vous allez comprendre que ce qu'il y a marqué dans sa parole, ce n'est pas uniquement pour faire du bien, pour que ça soit joli, pour que dans notre esprit ça nous apaise un instant, mais c'est pour qu'on puisse comprendre qu'on peut expérimenter véritablement ce qu'il nous dit. On peut expérimenter le fait d'avoir la paix. On peut expérimenter le fait d'être pardonné de nos péchés. On peut expérimenter la puissance de Dieu. On peut expérimenter la guérison. La guérison physique, la guérison intérieure. C'est cela que Jésus-Christ est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, mais voilà, Seigneur, ce serait bien qu'il puisse grandir dans cette connaissance. Ce serait bien qu'il puisse emmagasiner tout un savoir sur toi, sur moi. Voilà, c'est, mon Père, je te prie pour qu'il puisse avoir plein de savoir. Ce n'est pas ça. Il est en train de nous montrer ce chemin où la foi, c'est quelque chose de vivant. Jésus-Christ, son œuvre, si je le sais uniquement d'un point de vue historique, ça changera jamais ma vie. On chante souvent « Trois croix sont dressées » et c'est une réalité. Ce jour-là, trois croix ont été dressées. À l'époque, des centaines et des centaines et des centaines de croix étaient dressées. C'était quelque chose de courant pour les Romains. On parle de milliers même. Et pourtant, ce n'est pas les milliers qui sont morts qui ont fait la différence. Ce n'est pas les deux brigands qui ont fait la différence. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et qui est venu dans ce monde mourir sur la croix pour que nous puissions comprendre que nous pouvons expérimenter, avoir cette relation avec lui, comprendre ce qu'il a à nous dire, mais aussi comprendre que ce qu'il nous dit, nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Comprendre que son amour, ce n'est pas simplement pour nous faire parler, mais c'est un amour que nous pouvons recevoir, un amour qui peut nous transformer, un amour qui peut nous changer, un amour qui peut nous amener à nous ouvrir, un amour qui peut nous amener à pardonner à ceux qui nous ont fait mal, un amour qui peut nous amener à aimer les autres. C'est cela la vie avec Christ. Il y a ce verset, on le connaît bien, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La grâce de Dieu, c'est qu'il s'est laissé trouver par nous. C'est cela. Il s'est laissé trouver pour que nous puissions le connaître. Il ne nous a pas laissé dans un coin. Il n'a pas dit, ben voilà, pour venir vers moi, comme l'a rappelé notre frère, il faudra faire de longues prières pendant des heures et des heures. Vous allez faire des pèlerinages. Vous allez faire ceci ou cela, et après, enfin, vous pouvez peut-être arriver à mon niveau pour que vous puissiez me connaître, et peut-être espérer avoir la vie éternelle. Mais c'est pas ça, c'est que c'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est lui qui a voulu se laisser connaître. C'est lui qui a tout mis pour que nous puissions aller vers lui, comprendre que ce qu'il a fait, c'est pour chacune de nos vies, afin que nous puissions être libérés. Parce qu'il y a quand même cette réalité. Pour rester dans le thème de la connaissance, c'est Romains 3 qui nous dit ça. Je vous encourage à lire du verset 10 au verset 18, on va juste lire deux versets, le verset 16 et verset 17. Pourquoi Dieu s'est laissé trouver? Pourquoi Dieu est venu à notre rencontre? Parce que cette relation, cette connaissance qui se matérialise par une expérience, par un échange, ne pouvait se faire que si Dieu venait à notre niveau. Elle ne pouvait pas se faire autrement. Et la réalité, pourquoi Dieu est venu, c'est le péché. Et c'est, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres de versets, mais il y a ceux-là qui sont venus sur mon cœur pour rester dans le thème. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et c'est ça la réalité. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez dire, mais voilà, mon chemin, c'est la destruction et le malheur? Peut-être. Peut-être que quelqu'un ce soir peut dire, mais voilà, si on pouvait résumer ma vie, ce serait ça. C'est le chemin, le sur mon chemin, la destruction et le malheur. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait dire, mais je ne connais pas le chemin qui me mène vers la paix. Je ne connais pas ce chemin-là. Je n'arrive pas. Et laissez-moi vous dire que lorsque Jésus-Christ est venu, lorsqu'il veut se laisser connaître par nous, c'est uniquement pour que nous puissions comprendre que le seul chemin qui nous mène vers la paix, c'est lui, c'est Christ. Et pour refaire le lien avec cette prière de Christ, ce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse et celui que tu as envoyé, c'est ce qu'il va dire dans d'autres circonstances, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour que nous puissions connaître ce chemin de paix, connaître ce chemin de la vérité, parce que quand même, Jésus-Christ va le dire, va appuyer cela. Il va dire, mais c'est de connaître la vérité qui va vous affranchir. Et cette connaissance, toujours, se ramène à ce que nous partageons. Ce n'est pas de dire, je connais ce verset par cœur qui va m'amener à être libéré. Ce n'est pas de dire, je sais que c'est dans Jean chapitre 8, mais c'est de le vivre. C'est de dire, Seigneur, aide-moi à l'expérimenter. Aide-moi à vivre cette vérité que tu m'offres. Aide-moi à m'affranchir de mon péché. C'est de dire, Seigneur, je veux te connaître, mais je ne connais pas le chemin de la paix. Montre-moi le chemin. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne peut qu'exaucer cette prière parce qu'il a déjà fait en envoyant son Fils. Et c'est à nous maintenant de comprendre que Dieu a tout accompli. Dieu a tout mis à disposition de l'humanité pour que nous puissions rentrer dans cette connaissance qui nous amène à la vie éternelle. Dieu aurait pu cacher certaines choses. Dieu aurait pu mettre de côté certaines choses. Mais tout est clair. Jésus-Christ pourra dire « tout est accompli » pour que nous n'ayons pas à chercher. Ou du moins, je vais le redire, pour que si nous cherchions, nous puissions trouver. C'est ce que dit la parole. Pour que si nous puissions, si nous nous frappions aux portes pour dire mais quelle est la bonne porte, pour que nous puissions vivre ce que la parole dit, mais à celui qui frappe, on va ouvrir. Et c'est ça ce que Jésus-Christ veut. C'est cette connaissance qui pourra faire que votre vie, ta vie va changer. C'est pas de multiplier les réunions, c'est peut-être de multiplier les prières et la lecture de la parole en disant mais Seigneur, je crois ce que tu me dis. Seigneur, oui, tu t'es laissé trouver. Par ceux qui te cherchaient, je te cherche. Apprends-moi, je veux te connaître davantage. Et c'est cela qui nous amène à expérimenter que la vérité de Christ peut nous affranchir. J'avais noté, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, d'hommes et de femmes qui n'étaient pas des intellectuels, qui n'étaient pas des savants, et qui ont compris que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on peut expérimenter de loin, mais qu'il fallait le toucher, qu'il fallait venir importuner, si je peux employer ce mot, qu'il fallait venir à sa rencontre. Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être quelqu'un pourrait faire cette prière ce soir. Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi. Et c'est sûr que Jésus-Christ va le faire. Parce que il veut que tous parviennent à la connaissance de Jésus pour être sauvés, bien évidemment. Je terminerai juste avec cette pensée, c'est qu'on voit quand même quelque chose dans cette prière que Jésus va faire, c'est que la connaissance que nous pouvons avoir est liée au fait qu'on garde sa parole. On ne peut pas dissocier cela. On ne peut pas vouloir connaître Jésus-Christ et ne pas garder sa parole. C'est impossible. Maintenant, si nous gardons sa parole, naturellement, nous allons prendre à le connaître. Naturellement, notre foi va grandir. Si nous nous nourrissons de sa parole, notre foi va grandir, puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne faut pas, et peut-être je veux vous encourager à lire la parole, à la méditer, parce que si vous désirez connaître Christ, si vous désirez connaître le chemin du salut, et que vous refusez de lire la parole, la Bible, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Et on voit réellement que c'est lié. Et j'aimerais finir avec ce texte quand même. C'est un texte qui m'a marqué, que j'ai partagé tout à l'heure au jeûne et prière. Mais j'aimerais qu'on puisse le relire ensemble. Et je terminerai avec cela. C'est dans Ésaïe 28, et on va lire à partir du verset 13. Parce que le danger, c'est de refuser la parole. Le danger, c'est de mépriser la parole. Nous lisons, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à leur renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, et c'est là le problème, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, et il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je voulais rapidement terminer sur ce texte parce que on peut vouloir connaître Dieu parce que quand même, en réfléchissant, on se dit que quand même, avoir la vie éternelle, c'est bien. Avoir le pardon de nos péchés, c'est bien. Et c'est possible, on l'a vu, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Mais, comment faire? Comment vous pouvez faire d'accepter le salut, d'accepter de vouloir connaître Dieu, et j'y reviens volontairement, d'accepter de connaître Christ pour avoir cette vie éternelle, mais de refuser la parole. Et je voulais vraiment, et c'était sur mon cœur, terminer par cela, parce que c'est quand même un avertissement, parce que si on refuse la parole, si on n'accepte pas, si pour nous la parole c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, regardez d'autres versions, la traduction, et vous allez voir que suivant les versions c'est encore plus parlant. Si notre rapport à la parole de Dieu n'est que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, ce qu'on peut faire, et peut-être c'est quelqu'un ce soir qui est là, dans ce cas-là, on fait une alliance, qu'on le veuille ou pas, avec la mort. Parce que refuser la parole de Dieu, c'est refuser ce qui est esprit et vie. Et comment la parole peut avoir un impact dans notre vie? Comment la parole peut amener la vie en nous si on n'accepte pas cette parole? Comment on peut accepter de se repentir, de demander pardon à Dieu, si on n'accepte pas le fait qu'on est pécheur? Si on n'accepte pas que Dieu nous montre, pointe du doigt, ce qui ne va pas dans notre vie, non pour nous accuser, mais pour nous restaurer. Et inconsciemment, ou consciemment, qu'on le veuille ou pas, on refuse l'alliance de vie que Jésus-Christ est venu faire. On refuse cette alliance éternelle. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions connaître Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui qui l'a envoyé, c'est la parole faite chair. On ne peut pas dissocier la parole de Christ, de notre connaissance, de ce qu'il fait, de ce que nous acceptons par rapport à ce qu'il nous dit. Parce que ça ne peut pas nous mener dans une alliance de vie. On pourrait prier le Seigneur un instant. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es laissé connaître. Seigneur, tu n'as pas voulu te cacher à nous. Seigneur, tu es là, et je le crois, selon ce que ta parole nous dit dans ce lieu. Parce que encore aujourd'hui, tu veux te laisser trouver par quelqu'un. Encore aujourd'hui, tu veux permettre à quelqu'un qui vit peut-être dans le malheur, son chemin n'est que malheur, désastre, de pouvoir connaître ce chemin de paix. Seigneur, merci pour cet amour, merci pour cette connaissance que tu nous offres, qui n'est pas intellectuelle, mais c'est une connaissance de cœur. Une connaissance qui nous amène à être libérés, affranchis du péché, parce que nous savons qui tu es, Jésus-Christ. Nous savons ton œuvre, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je veux te prier dans ce lieu, si quelqu'un est encore extérieur à cette alliance, si quelqu'un est dans une alliance de mort parce que il refuse ta parole, il refuse ce que tu lui dis, si quelqu'un se trouve dans cette situation, mon Dieu, qu'il te plaît ce soir qu'il puisse passer du bon côté, vers la lumière, vers ce que tu nous invites à faire. Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce que tu veux pour nos vies. Apprends-nous de toi d'une manière pure, sainte, selon les Écritures, que nous ne soyons pas basés sur ce que nous pensons, mais véritablement sur ce que toi tu dis, sur ce que ta parole dit, afin que nous puissions être épurés, émondés, et que nos vies soient ce sacrifice qui t'est agréable. Merci mon Père pour tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as encore dans ton cœur, ce que tu vas accomplir parmi nous, dans cette ville. Merci Père parce que nous savons que tu entends ces prières qui montent vers toi à cet instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions Père. Amen.